partir du verset 12. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi.
Alors, ça va bien? Tout le monde vous a posé la question depuis un matin. Croyez-le ou pas, c'est mon thème, la joie. Êtes-vous joyeux? Faites-vous la différence entre le bonheur, la joie et la gaieté? OK. Allez me rassurer d'abord. Comme vous pouvez voir, au cours de l'année, pas de l'année, mais du mois. Tout le monde a des carrés, hein? Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué mon petit carré? Hein? Des carrés, il y en a toutes sortes de couleurs. Il y en a du rouge, du blanc, du vert. Puis, on dirait au Québec, il faut qu'on choisisse un carré. Sans ça, tu deviens du poisson pourri, puis... est attaqué. J'ai lu Martineau, là, il y avait un bon article dans son... C'était vraiment intéressant. Ah oui, on peut rajouter les chaudrons et les casseroles. Ça, c'est le Québec, hein, des dernières semaines, qui est une manifestation du cœur de l'homme qui se rebelle contre l'autorité. Et on voit tout ça, beaucoup d'injustices, peu importe où vous êtes assis. Moi, j'ai choisi un carré qui s'appelle le carré de la gloire de Dieu. Puis là, j'ai appris, ça a l'air qu'il y en a des jaunes, hein? Connaissez-vous les carrés jaunes? Moi non plus, mais j'ai eu peur, fait que je vais dire que c'est or, OK? Or qui représente la gloire de Dieu. Êtes-vous d'accord? Et je vous dis que vivre dans la vraie vie quotidienne, dire les choses qu'on doit dire, faire les choses qu'on doit faire. Et le but de tout cela, c'est la gloire de Dieu. Et c'est quand même tout un défi. Parce qu'on est tous sincères ici. Si je poserais la question, qui est-ce qui veut vivre pour la gloire de Dieu? On lèverait tous la main. Je suis convaincu qu'on est sincères. Moi aussi, je veux vivre pour la gloire de Dieu. Je veux lutter contre le péché dans ma vie. Je veux marcher en regardant les gens dans les yeux, puis souhaiter la bénédiction du Seigneur, puis la joie du Seigneur. C'est important pour nous de savoir quel carré qu'on veut vraiment magnifier. Dans cette série de Philippiens, on a vu les premières fois, Christ est notre vie. Et ce qu'on a réfléchi ensemble, en fin de compte, c'est pas de dignité s'il n'y a pas de vie conforme à Christ. En deux mots, là, arrêtons de penser qu'on va glorifier Dieu dans nos vies si notre vie n'est pas conforme à Jésus-Christ. Ça a-tu l'allure? La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est que Christ est notre modèle. Et là, dans cet aspect-là, ce dimanche-là, je n'ai pas eu le temps de fermer comme il faut, j'ai sauté en moitié de la prédication. Mais le but, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'humilité. Puis, on a le chapitre 2 qui nous donne l'exemple suprême de Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, n'a pas regardé le fait qu'il était Dieu. Et nous connaissons ce beau cantique, hein, du premier siècle, et qui est devenu un vrai homme, un esclave, l'homme parfait de Dieu, le Dieu parfait des hommes, qui a souffert l'ignominie, qui a monté sur la croix, et il y a le nom qui est au-dessus de tout nom, le Seigneur Jésus. Que tout genou fléchisse. Et nous, on a le grand privilège de fléchir de notre vivant, mais un jour, tout genou va fléchir devant Dieu. Pas d'unité s'il n'y a pas d'humilité. On a vu ça ensemble, rapidement. Ensuite, on arrive aujourd'hui, Christ est mon but. Christ est ma vie, Christ est mon modèle, Christ est mon but. Et on veut tout cela parce que notre but, c'est de glorifier Dieu dans nos vies. Christ est notre roi. La seigneurie de Christ dans nos vies est importante pour nous. Elle est importante dans nos vies, elle est importante dans notre assemblée. Elle est importante pour chaque enfant de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais vous entretenir sur cette idée que Christ est mon but. Quel est mon but? Vous savez, ces grandes questions qu'on arrive au cégep, puis d'où est-ce qu'on vient, qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait sur la terre, pourquoi qu'on est ici, où est-ce qu'on va. Et là, il y a un paquet de philosophes qui vont essayer de vous pointer du doigt le non-sens de la vie. Tu montes la roche, tu descends la roche, tu montes la roche, tu descends la roche. L'existence, ça termine. Le possible anéantissement nucléaire. C'est ça le cours. 101, 102, 103. Ouais, but. Quel est votre but ce matin? Quel est le but de ma vie? Quel est le but? Quelle sorte de planification est-ce que j'ai fait ce matin, que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans? Quel est mon but? Qu'est-ce qui me motive? Christ est mon but. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, on a placé notre foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ. On a dit, waouh, je prends ma vie et je la donne à Christ, le Seigneur de ma vie. On est sous la seigneurie de Christ. Et là, je commence à prendre des décisions, à planifier ma vie. Et si vous êtes comme moi, là, j'en ai pris un paquet de décisions dans ma vie qui n'ont pas glorifié Christ. Et là, je me rappelle Galates 6,7 qui dit qu'on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sème, on le récolte. C'est vrai. Alors, il est important pour nous ce matin de réfléchir lorsqu'on dit très facilement, Christ est mon but. Moi, j'aimerais vous suggérer, dans une première chose, c'est qu'on a une perspective éternelle de la vie. Regardez dans Philippiens 3, 20 et 21, qui est au tableau. L'apôtre Paul va, dans ce contexte de Philippiens, que je ne mettrai pas beaucoup de temps, parce que plusieurs fois je le mentionne, Paul est en prison. Il va s'en remettre à Dieu pour sa vie. Une église qu'il aime énormément, qu'il appelle mes bien-aimés, mes bien chers frères, la seule église du Nouveau Testament qui pourvoit ses besoins. Une église qui aime tellement, une église où ce que le conflit est là. Une église qui était avec lui, avec l'Évangile. 8 fois le mot Évangile vient dans Philippiens, et dans un contexte de progrès de l'Évangile, de la joie que l'Évangile donne, malgré les circonstances. Et l'apôtre va rappeler ici, en fin de compte, dans ce texte, que c'est donc beau. Mais nous, qui? Nous, les croyants. Nous sommes citoyens des cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Puis il va ajouter ceci. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Toutes choses. On l'a mentionné ce matin à table du Seigneur. Le but, lorsqu'on dit facilement, Christ est mon but. Si vous planifiez votre vie seulement temporelle, c'est-à-dire, disons 120, on va être généreux un matin. C'est la dernière fois que j'ai parlé de moyenne, j'ai inversé l'homme et la femme. On se donne 120 ans. Si vous planifiez votre vie sur cette terre uniquement avec les choses d'en bas, vous ne pouvez pas dire sincèrement que Christ est votre but. Parce que lorsque Christ est mon but, notre planification va dans l'éternité. Et ça change toute la perspective des choses. la perspective des circonstances. La perspective des événements. Si on planifie notre travail, j'ai rencontré un homme dans ma vie, un qu'un, qui m'a dit, moi, à l'âge de 35 ans, je vais avoir le million. Puis il y a deux, trois semaines, quelqu'un me dit, il l'a. Puis après. Puis après. Il l'a pour le vrai, ça a l'air. Il faudrait que je monte à Québec pour le vérifier. Notre perspective, notre but, qu'est-ce qui nous motive? Nos profonds désirs. Christ est mon but. Christ est ma vie. Une perspective éternelle de nos vies chrétiennes. Pas une sorte de parenthèse de 3 semaines, 3 ans, 3 mois, 30 ans, 50 ans, 120 ans. C'est une parenthèse dans l'éternité. La perspective éternelle, mes amis, va changer la manière que vous allez voir toutes les circonstances qui se passent en avant de vous. Et Paul, souvenons-nous, il est en prison. Il y a des chrétiens qui annoncent l'Évangile, il lui fait du tort. Puis il dit, néanmoins, Christ est annoncé, c'est le progrès de l'Évangile, puis je me réjouis. Vous savez, la joie, la couronne et la fermeté de l'apôtre Paul, c'est pas « Hey, j'ai évangélisé 12 personnes cette semaine. Hey, j'ai appris le Nouveau Testament par cœur. Hey, j'ai accompli telle chose. » Ça peut être tout bon, ça. Mais la joie, la couronne et cette exhortation de demeurer ferme dans le Seigneur vient du fait qu'il est parmi le peuple de Dieu et le peuple de Dieu l'aime. La couronne de Paul, c'est ses Philippiens eux-mêmes. Parce que Christ est son but. Les âmes qui périssent sans Jésus-Christ, qui potentiellement sont le temple du Saint-Esprit, lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, deviennent une gloire pour Dieu. Et le peuple de Dieu grandit spirituellement, en maturité. L'apôtre Paul est un homme extraordinaire. Il va dire dans Philippiens 2, 12 à 18 qu'on a lu, il nous parle de réjouissance, mais regardez le texte qu'on a lu. Et c'est vraiment, il y a encore le mot « toujours ». Des superlatifs, j'ai toujours eu peur des superlatifs quand on parle des êtres humains. Tout le temps, toujours, jamais. Ah, tu arrives toujours en retard. Tu fais toujours ça. Quand on parle de Dieu, on ne se trompe pas. Toujours bon, toujours puissant, toujours rempli de compassion, toujours un Dieu qui pardonne. Mais quand on parle des êtres humains, il faut travailler fort. Hein? D'accord? Regardez le premier texte, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Paul n'est pas là. Paul est en prison. Cette église est grandie. Et Paul leur dit, vous avez mis en action votre salut. D'y travailler avec crainte à cause de la gloire de Dieu et tremblement. Pas de joie s'il n'y a pas d'obéissance à Dieu. Et je ne parle pas de n'importe quelle joie, on va y aller tout à l'heure. À quelque part, si je vous dirais, allez travailler sur votre yacht de... Avez-vous le yacht du Russe là, qui est à Montréal? Hein? Il valait combien de millions? 150 millions. Supposons qu'on a tout un yacht de même. Puis je vous dis, hey, après-midi, là, il fait beau, là, écoute, là. Faut pas tirer, hein? Faut pas digérer, là. C'est le matin, mais là, on en demande pas mal l'après-midi. Là, on va aller travailler à notre yacht. Vous sortez tout, puis vous cherchez votre yacht, puis vous ne le trouvez pas. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez pas de yacht. Le salut, c'est comme ça. On ne travaille pas pour acquérir le salut. On travaille parce qu'on l'a déjà, avec crainte et tremblement. Et on rejette tout le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand il n'y a pas de péché à nulle part, ça veut dire qu'il y en a partout. C'est là qu'il catch. À quelque part, mes amis, la joie de Paul, elle vient de l'obéissance des chrétiens à Philippe. La joie de Paul, la couronne de Paul, vient de cette église qu'il aime, qui grandit dans le Seigneur. Une église qui a sur son cœur. Puis il le rappelle, parce qu'il les aime. Travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Puis regardez un peu plus bas. Il dit, vous portez, au verset 15, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Nous sommes des flambeaux portant la parole de vie. Nous sommes des lumières dans un monde perverse et corrompu. Nous pouvons mettre avec fierté le carré d'or qu'est la gloire de Dieu, mais travailler avec crainte et tremblement. Au salut que vous avez. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Éphésiens 4:30 nous le rappelle. On va parler de la joie. On va parler de la joie. Bill m'a posé la question. Bill! William, tu m'as demandé, je t'avais dit, c'était mon sujet, la joie. Hein? Comment ça va, Michel? Bon, avec les circonstances, je suis dans la joie. Ouais. OK, circonstances autour des pieds, dans la joie. Dictionnaire nous dit ceci. Émotion profonde et agréable, souvent courte et passagère. Pense à ça. Là, je pensais à une bonne crème glacée au coin de chez nous. Là, il y a une place qui vend la crème glacée. Puis, elle a cette capacité de fondre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On a de la joie. Puis, ceux qui ont été, vous savez, à la pointe Jean Kroger, Notre-Dame, là, elle jette un bébé, hein? Puis, une ou deux fois par année, l'été. Pas plus. Hein, Diane? On a une joie. Puis ça ressemble à ça, la joie. Vous remarquez? C'est une émotion profonde. Mais ça ne dure pas, ça fond. Parce que c'est plus là. En plus, tu viens de faire avoir de quasiment, ça coûte cher, quasiment toi et quelque chose, hein, le petit bébé. Puis là, après la joie vient la facture. Et puis là, la joie. Puis là, on cherche d'autres choses. On se trouve dans. Ouais, bonne game de football, une game de basketball, une game. C'est de la joie. Là, les Italiens, vous remarquez, il y a un éléphant matin qui a choisi déjà les vainqueurs. Vous avez vu ça à TV? Un éléphant matin, ils ont mis deux fruits, puis l'éléphant est arrivé, puis cet éléphant-là, c'est un devin. Fait que, quand il a choisi l'équipe italienne, tu as vu sauter le monde de joie! Puis s'ils perdent, ils vont tous pleurer. Alors, on est d'accord. Regardez, ne pas confondre avec les mots suivants. Bonheur. C'est quoi le bonheur? État moral de plénitude qui comporte une idée de durée. Le bonheur. Ouais. Est-ce qu'il faut que je maintienne la joie pour avoir le bonheur? Il y a une contradiction, là. Est-ce que je vais aller me jeter à l'eau parce que mon petit bébé, quand même, m'a donné à peu près 30 secondes de joie? Est-ce que je peux dire que je suis dans le bonheur? Non, c'est de la joie d'être assasié. Regardez, un autre mot qu'il ne faut pas confondre, c'est gaieté. La gaieté. Bonne disposition de l'humour. L'humour. Les gens sont gays quand ils sortent d'un stand-up comique. Avez-vous remarqué? Ils ont eu du fun, ils sont gays. Ils ont de bonnes nouvelles, ils sont gays. Et c'est intéressant de voir ces choses-là parce qu'à fin de compte, on pense au plaisir aussi. Hein? Tu sais, la petite dopamine qui vient, là. Le petit plaisir. Sensation agréable. On regarde tout ça, là, puis je dis, là, Paul, lequel tu choisis dans ces affaires-là? Tu es en prison, tu vas probablement perdre la tête. La chicane est pognée dans l'église de Philippe. Il y en a qui annoncent l'Évangile, mais ils te font du tort, puis tu es content pareil. Il n'y a personne qui partage ton âme, qui pense comme toi là où ce que tu es. Mais de quel tu choisis? Choisis-tu l'émotion profonde et agréable, souvent courte et passagère? Choisis-tu le bonheur? Choisis-tu la gaieté? Choisis-tu le plaisir? Quelles circonstances, Paul, que tu es en train de vivre, puis tu partout dans Philippiens, tu parles de la joie, puis de la joie, puis de la joie. Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous répète, réjouissez-vous tout le temps. Où est-ce que tu prends ta joie? Christ est mon but. C'est un beau mot, joie. J'étais en train de relire les martyrs du 15e, 16e siècle, Fox Martyrdom, que j'ai lu il y a quelques années. Je suis en train de relire ça. Puis il y a une histoire là-dedans. Là. C'est un gars qui a 12 enfants, un à la mamelle. Puis il passe d'une rangée pour aller se faire brûler parce qu'il s'est dit chrétien. Puis il passe devant sa femme, puis il se donne des coups de poing d'estomac, puis il dit « mort à la chair, je veux mourir avec joie ». Où est-ce qu'il prend sa joie? Où est la joie? Dans la petite crème glacée là, qui dure 20 secondes, qui fond vite. Dans une petite nouvelle à quelque part, dans toute l'éternité de nos vies. Où est notre joie? Vous savez, la joie dans la parole de Dieu, elle est profonde, elle est durable, elle est stable, elle est pure, elle est paisible et elle est complète. Parce que Christ est notre but. On n'a pas d'agenda caché à nulle part. On n'a pas des plans pour les autres à nulle part. Christ est notre but. Et cette série de 4 messages a pour but de nous rappeler que Christ est notre but. Christ est notre Seigneur. Et, bibliquement, il faut vraiment y aller avec la Bible, soit ici, là, puis dire que ce que la Bible enseigne, c'est que Christ est christocentrique. Christ est au centre. Christ est le centre de tout. Quelle joie! Regardez les versets 17. Verset 16, perspective éternelle. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, il est en train de dire, même si je me fais zigouiller, même si je suis calomnié, même si ceux qui annoncent l'Évangile me détruisent en même temps, c'est pas grave, je me réjouis avec vous, vous aussi, réjouissez-vous de même, réjouissez-vous avec moi,
La joie, Paul. Où prends-tu ta joie, Paul? Christ est son but. Point. Sa raison de vivre, qui répond à toutes ces questions, qui suis-je, où est-ce que je vais aller, le sens de la vie, d'où est-ce que je viens, vous voyez? Si on manque Christ, on manque la vie. Une vie éternelle. Et toutes les décisions qui sont prises temporelles, sans la perspective éternelle et des décisions prises par la chair. Philippiens 4.4, c'est un appel à la joie. Les commentateurs F.F. Bruce vont vous dire, c'est un appel à la joie. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous en Jésus-Christ. Dans le Seigneur. Vous savez,
on emploie tellement le mot Seigneur en vain.
Qu'est-ce qu'on veut dire Seigneur? Maître. Réjouissez-vous dans le Maître. Le maître de votre vie, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Christ est notre vie. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, la joie du Seigneur. Au reste, frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Regardez, la joie dans l'épreuve, qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis encore. Regardez, Habacuc vivait la même chose. Habacuc, toi, nous dit, car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaissent du pâturage et ils n'auront plus de bœuf dans les étables. Ça va-tu mal? Tu sors du site, tu n'as plus de compte de banque. Il n'y a plus d'IGA, il n'y a plus de métro. Tu n'as pas pensé à faire un petit jardin. Moi, j'ai planté des tomates. Voyez-vous, ça va-tu mal? Habacuc, va sauter en bas du pont. Le pont La Violette, là, c'est sûr que tu ne manqueras pas ton coup. Il est assez haut. Mais il va dire ceci. Toutefois, ouais, tu as un petit secret, toi, Habacuc. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur de ma force. Voyez-vous? Le secret d'Habacuc, c'était le secret de l'apôtre Paul. Il se réjouissait en l'Éternel. La joie dans le service. J'ai écouté Piper sur la souffrance. Je ne veux pas vous faire peur, là. Il disait que dans la souveraineté de Dieu, la parapluie de la souveraineté de Dieu, la souffrance est programmée, c'est une belle école à vivre. Et dans la souffrance, c'est une belle occasion de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est une belle occasion de servir les autres et c'est une belle occasion d'examiner notre propre cœur et grandir dans le Seigneur, puis en lui ressemblant de plus en plus. Libation. Pas important. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous. Vous savez pourquoi tous les commentateurs appellent l'épître aux Philippiens l'épître de la joie? Pas à cause que Paul est en prison. C'est l'extraordinaire paradoxe. C'est le paradoxe. Aucune circonstance favorable. Et la joie dans son maître, la joie en Christ, parce que Christ est le but de l'apôtre Paul. Christ est notre but dans notre vie chrétienne, avec une perspective éternelle. Mes amis, si la souffrance n'a pas cogné à votre porte encore, soyez patients. Ça va arriver. Préparez-vous. Et c'est le temps d'apprendre ces versets-là. La joie à prendre part à l'Évangile. Oui, je suis assez encouragé de voir aller Jean-Marc, là. C'est merveilleux, l'expo qui arrive, tout ça. Mes amis, dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de ceux que vous prenez la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Parce que l'Église de Philippe, il faut comprendre que Paul était assisté par eux, par des membres. La joie de prendre part à l'Évangile. Je l'ai dit souvent, ça, je le répète un matin. Vous êtes marabout comme chrétien? Quand vous regardez dans le miroir, là, vous êtes comme, « Ouais, il me semble la vie chrétienne est plate. Moi, la dame du Seigneur, ça ne m'en joint pas. Moi, ça faisait comme ça. Moi ici, puis moi ça, puis moi ici, puis moi ça. » Vous devez vous dire dans le secret? Sortez dehors après-midi, là, puis partagez le Seigneur avec quelqu'un. Vous ne savez pas où y aller? Allez au McDonald's, il y a une gang de personnes âgées. Assis au McDonald's, là, je suis rendu avec 5 contacts, moi, là. C'est incroyable. Comment est-ce que prendre part à l'Évangile remplit vos cœurs de joie? Essayez-le cette semaine. Je m'en donnerai des nouvelles. Partagez le Seigneur. Partagez l'Évangile. Sortez l'Évangile des quatre murs et arrêtez de couper les cheveux en quatre avec toutes sortes de choses qui n'ont pas de perspective éternelle. Et c'est ça que, c'est ça, Paul. Il y a une perspective éternelle, citoyen des cieux. L'avancement de l'Évangile. MacArthur dit ceci, bien que l'avancement dans la foi ne s'obtient qu'à prix de grands efforts, il est toujours accompagné de l'avancement de la joie. Malgré l'effort, malgré la souffrance, malgré ici, malgré cela, la joie accompagne la souffrance. Mes amis, vous êtes peut-être mêlés un peu. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Moi, j'ai vu cette photo-là, j'ai dit, ouh, mêlée. Si nous marchons, si notre marche ne produit pas la joie du Seigneur, nous ne marchons pas pour l'Évangile. J'espère qu'il n'y a personne qui dit dans sa tête, « Michel, il n'y a pas un que l'Évangile dans la Bible. » Oui. Si vous avez les 7 traits de l'Évangile, vous avez tout ce que vous avez de besoin. Je l'ai déjà enseigné ça ici, plusieurs fois. La joie. La joie malgré les coups. La joie malgré la simplicité ou l'idiotie de quelques-uns. La joie malgré toutes ces questions qui ne se répondent pas et qu'on veut savoir toutes les réponses à toutes nos questions. Mes amis, ça fait 30 ans que je fais de la pastorale avec les gens. Puis ça fait longtemps que j'ai appris qu'il y a bien des questions dans la vie qui ne se répondent pas. Mais dites-vous une affaire. Le jour où on arrive devant Dieu, on va y poser la question. Puis, voulez-vous vous dire, la question qu'on a maintenant, là, temporelle, là, elle va avoir tellement peu d'importance là, que vous en foutez comme dans l'an 40. Faites penser au gars qui travaille, c'est la vieille histoire, je compte tous les mêmes vieilles histoires, parce qu'ils m'ont touché. C'est la mère qui arrive avec une toto que le petit gars jouait avec quand il était jeune. Le gars, il est rendu à 40 ans. Puis il vient dîner chez sa mère, puis sa mère arrive avec la toto, il te garde, elle dit, ce toto-là, là, tu passais des heures dans le sable à jouer avec ce toto-là. C'était ta toto, tu l'aimais, ce toto-là, tu couchais avec la toto. Tu l'avais amené à l'école, la toto, puis la maîtresse l'avait confisquée, puis tu as pleuré, puis tu as pleuré, puis j'ai été supplié, le professeur qui t'ordonne ta toto. Le gars, il regarde sa toto, puis il tord sa toto du réveil de la main. Je veux rien savoir de ça. Pourquoi? C'est sa toto qu'il aimait. Mes amis, nos mères donnent des bonnes idées des fois. Elle m'a toujours dit, mais elle dit à moi, elle dit, Michel, il se passe bien des affaires d'un an. Pensez à ça. Reculez rien qu'un an dans votre vie. Il se passe bien des affaires d'un an. Beaucoup de questions. Là, je vais aller un peu plus rapide. Voici des amoureux. J'ai trouvé ça sur Internet. Ça a l'air que c'est des amoureux couchés un près de l'autre, avec une perspective temporelle de la vie, où que le bonheur est là. Et c'est tellement merveilleux, hein? On a tout, là, tu regardes Géa Lepage, là, tu regardes tout le monde en parle, tout ça fait là. C'est tout du monde qui ont des bonnes idées. Et puis, ils arrivent avec une manière de voir tout dans la vie, là. Puis les artistes, ils ont le dernier mot. Moi, je vous le dis, là, si j'irais en politique, je m'accrocherais une guitare dans le cou. Puis je la mettrais en arrière dans mon dos. Juste avoir la guitare dans le cou, je passerais pour un spécialiste. C'est pas mal certain. Mais je n'irai pas en politique parce que la politique ne change pas le cœur de l'homme. C'est l'Évangile qui change le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Fait qu'on n'ira pas là. OK. Alors, c'est des amoureux. C'est des amoureux. Voyez-vous, ça ressemble à ça, la planification temporelle. Toutes vos petites agendas temporels, là, ça ressemble à ça. Rien qu'une nouvelle en deux visites au médecin va vous renverser. Personne ne sait ce qu'il va entendre de la part du médecin entre deux visites. C'est tout du temporel. On est les plus malheureux des hommes, des humains malheureux, si nous planifions notre vie d'une manière temporelle. Parce que dans la Bible, il y a une perspective éternelle vers Christ. Et ça, mes amis, ça devrait changer toutes les décisions de notre vie. On devrait marcher avec la crainte de Dieu, être préoccupé par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est tout un... Ça colle plus. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on dit, les plans qu'on fait, doivent avoir une perspective éternelle. Toujours. Christ, notre vie, notre modèle, notre but. Pas de dignité s'il n'y a pas de vie conforme. Pas d'unité s'il n'y a pas d'humilité. Pas de joie s'il n'y a pas d'obéissance. On est rendu là. Ça vaut la peine de réfléchir un peu ensemble. Levez-vous, on va prier Dieu ensemble. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle ne m'a pas s'élever. C'est correct, reste assis. Parce que pour moi, Dieu nous voit, il voit nos cœurs. Puis pour moi, un chant, c'est une prière, premièrement. Ce n'est pas une toune. Excusez, j'aime bien la musique aussi. Là. Je gigote, moi aussi, rendu là. Il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez l'essence même de la réflexion? Te ressembler Jésus? Posez-vous la question, qu'est-ce qui arriverait dimanche matin? Ça serait une gang de petits Jésus qui arriverait ici, là? Peut-être des attitudes changeraient. Il y aurait moins de monde qui regarderait le plancher qui le voit. Je ne sais pas. Il arriverait tout ça à faire. Peut-être qu'on arriverait chacun avec un contact. C'est le fun. On serait voué d'aller dans le parc des chenots pour faire la réunion. J'aimerais ça qu'on chante ça ensemble. À capelle là, parce que je ne vais pas demander à Raphaël, je l'ai oublié. Mais ça ne fait rien. Puis, aidez-moi, parce que je suis le gars, demandez à ma femme, je perds les heures en m'en allant. Mais j'aime tellement les paroles. Puis c'est une prière pour Dieu, OK? Amen. Bon après-midi.